Bientôt 15h04, tout de suite là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
J'ai enfin entendu le grand Charles. Bravo, bouleversant cette émission. Merci Daniel, ciao.
Salut Daniel, j'étais très ému d'écouter Charles Pallas, une foule d'émotions et de réflexions, notamment une vraiment inattendue. Je me demande comment cet homme a fait avoir des enfants après ce que la vie lui a fait subir. Mais enfin, apparemment, il a un courage indéboulonnable.
Salut Daniel, c'est Thierry. Je t'appelle pour te remercier de ton émission d'hier avec Charles Pallas. Super, super, super. Merci, merci. Continue Daniel.
Merci Daniel pour l'émission de ce mercredi avec Charles Pallas. Un grand monsieur. Merci infiniment. Marie de foi.
Je vous appelle au sujet de l'hôpital L'Hôtel Dieu à Paris. Et je trouve parfaitement scandaleux la fermeture du service des urgences de l'Hôtel Dieu de Paris, qui regroupe 9 arrondissements de Parisiens, un service VIH, un service pneumologie, un service ophtalmologie de renommée mondiale. Donc je m'insurge fortement contre la fermeture de cet hôpital.
Ce jeudi 16 mai, les parlementaires Front de Gauche de l'Assemblée nationale déposent une loi contre les licenciements boursiers. Une loi que le 16 février 2012, le groupe socialiste au Sénat avait voté pour, disait-il à l'époque, dénoncer les exigences à 2 chiffres des actionnaires alors que la croissance peine à atteindre 1%. Régis de Nîmes.
Salut à tous, c'est Agathe de l'usine Citroën d'Aulnay. Aujourd'hui 16 mai, c'est notre 4e mois de grève contre la fermeture de notre usine. Depuis 4 mois, on se bat contre un patron menteur et licencieur, une des plus riches familles de France et qui peut compter sur la complicité du gouvernement. Depuis 4 mois, on se bat donc aussi contre ce gouvernement dit socialiste qui vote des lois pour détruire nos droits et le code du travail, comme avec l'ANI ou le refus de voter la loi d'amnistie des militants syndicalistes, et je suis bien placée pour le savoir. Aujourd'hui 16 mai, on en est maintenant à négocier un protocole pour suspendre la grève. On a donné ce qu'on a pu, avec la force qu'on a, mais les lignes ne peuvent plus beaucoup bouger. Pour faire plier Peugeot et le gouvernement, il aurait fallu que la mobilisation dépasse les centaines de grévistes d'Aulnay, qu'elle s'étende aux autres sites PSA et même au-delà dans d'autres entreprises. Et c'est nécessaire parce qu'on a tous les mêmes problèmes. Ceci dit, on peut être fiers de nous. Nous n'avons pas mis Peugeot à genoux, juste une belle épine dans son talon. Mais nous, en tout cas, on s'est mis debout. On a su dire non. On est resté digne, la tête levée devant ce grand patron. Et cette résistance déterminée, elle a été possible parce que nous nous sommes organisés, le comité de grève, les assemblées générales nous permettent de réfléchir nombreux et de prendre des décisions tous ensemble. Tout cela est possible aussi grâce à cet élan de solidarité morale et financière qui vient de partout, qui vient de vous, qui nous a permis de tenir 4 mois sans salaire. Merci à tous. Et justement, j'en profite pour dire qu'il faut encore qu'on fasse la paye demain et qu'on assure nos prochaines bagarres. En tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, 16 mai, après 4 mois de grève, c'est qu'au-delà de notre lutte, de cette solidarité magnifique, il faut maintenant qu'on mène tous ce combat contre les nantis, les patrons et leurs ministres. Il faut qu'on s'y mette tous si on veut faire cesser toutes ces attaques contre nous, les travailleurs, les salariés, les privés d'emploi, nous qui produisons toutes les richesses et qui faisons tourner la société. Alors vive les travailleurs et vive la grève.
Merci pour tous ces messages. Merci Agathe pour ce message et merci à tous pour vos messages laissés sur le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Est-ce que vous vous souvenez de cette répartie historique le 21 avril 2009 sur France 2, David Pujadas s'adressant au syndicaliste cégétiste Xavier Mathieu. Vous vous souvenez de cette scène? David Pujadas demande: est-ce que vous regrettez ces violences? Et là, il y a un tout petit silence. Et Xavier Mathieu dit: vous plaisantez, j'espère. On ne regrette rien. Vous vous souvenez probablement, surtout si vous écoutez là-bas, si j'y suis, de cette répartie historique entre un très, très, très grand journaliste et un syndicaliste. Je ne connais pas assez bien David Pujadas pour savoir s'il a posé de telles questions auparavant et ensuite et depuis à des chefs d'entreprise sur la violence exercée par ces entreprises envers les salariés. Bertolt Brecht dit quelque part: on déplore la violence du fleuve, mais on oublie la violence des rives qui enserrent le fleuve. Évidemment, vous me voyez venir, je vais parler de l'amnistie syndicale, de l'amnistie sociale des syndicalistes. François Hollande, lors de la campagne, s'était engagé à amnistier les condamnations du précédent quinquennat. Le texte très amendé a été adopté au Sénat en février 2012, mais depuis, le gouvernement a plutôt tendance à faire marche arrière. Il doit être débattu en principe aujourd'hui, soumis à l'Assemblée nationale, mais il se pourrait bien que le texte soit renvoyé en commission. On voit que le gouvernement actuel n'est pas pressé de mettre en place une loi amnistiant ceux qui luttent sur le front social. Alors évidemment, bien sûr, il peut y avoir des casseurs irresponsables, des violences imbéciles et répréhensibles, mais dans l'ensemble, depuis fort longtemps, les violences ouvrières ou les violences des salariés répondent à une violence précédente, symbolique ou physique. Et c'est une très longue histoire. On va revenir aux grandes grèves de 1948. On vous avait présenté, il y a 2 ans, une suite de reportages sur ces grandes grèves de 1948 qui ont été réprimées par les armes d'un gouvernement socialiste et 3000 mineurs avaient été licenciés. Eh bien, depuis maintenant 65 ans, ceux qui sont encore vivants sont toujours debout et demandent réparation. Ils ont obtenu justice, mais ça a été remis en cause et on fera le point avec eux à la fin de ce reportage. Donc, d'abord, que se passe-t-il devant l'Assemblée nationale? Puis, ensuite, l'évocation des grandes grèves de 1948 avec la lutte acharnée des survivants pour la justice et pour leur dignité.
Alors il y a quelques centaines de personnes devant l'Assemblée nationale, beaucoup de drapeaux de la CGT, du Front de Gauche, de la FSU, des alternatifs, pour interpeller les députés qui vont examiner aujourd'hui la proposition de loi d'amnistie sociale. Se joue aujourd'hui à l'Assemblée nationale?
Eh bien, il se joue l'adoption ou le rejet du projet de loi, proposition de loi, pardon, de la gauche sénatoriale sur l'amnistie sociale. Éliane Assassi, présidente du groupe communiste au Sénat.
Alors, vous avez défendu ce projet de loi, justement?
Oui, j'étais rapporteur. Je suis auteur et rapporteur de ce texte au Sénat.
Alors, il a été amendé une première fois, c'est ça, au Sénat?
Il a été amendé, il y a eu un gros travail qui a été effectué entre les groupes de la majorité de gauche au Sénat sur ce texte, avec des éléments qui ne convenaient pas aux auteurs que nous sommes, mais il nous a semblé quand même que malgré des restrictions, il contribuait quand même à rendre justice à un certain nombre de personnes qui, dans leur entreprise, s'étaient mobilisées pour sauvegarder leur emploi, leur entreprise ou des gens qui avaient manifesté pour le droit au logement, par exemple.
Alors aujourd'hui, le souhait du Parti Socialiste de le renvoyer en commission des lois, ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire qu'ils sont droits dans leurs bottes et répondent aux exigences du gouvernement qui ne veut pas entendre parler de ce texte en faisant des amalgames mensongers sur la nature de ce texte, en faisant un amalgame considérant à dire que s'il était adopté, toutes les violences qui se sont passées en marge des manifestations contre le mariage ou qui a pu se passer là récemment après la victoire du PSG rentrerait dans le cadre de ce texte. Or, il ne s'agit pas du tout de ça, puisque à la fois le champ est limité de personnes qui seraient concernées par la proposition de loi d'amnistie et par ailleurs il y a une date butoir qui est celle du 1er février 2013. Donc tous les faits qui se sont passés après le 1er février 2013 ne tombent pas dans le champ de cette loi.
Alors c'est quoi? C'est un cadeau au MEDEF? C'est un cadeau,
Si on conjugue ce qui s'est passé sur la loi dite de sécurisation de l'emploi, le gouvernement, par ses deux actes, vote bloqué sur la sécurisation de l'emploi, rejet de la proposition de loi sur l'amnistie, envoie de très mauvais signaux au monde du travail, et en tout cas n'envoie pas des signaux de gauche au monde du travail. Voilà, il va y avoir de grandes batailles parlementaires, mais ça c'est une chose, mais je crois qu'il va surtout y avoir de grands mouvements dans la rue.
Alors il va y avoir quelques déçus aujourd'hui, c'est les mineurs de 48.
Bien sûr.
Hein, les grévistes de 48 qui ont été sanctionnés.
Ça, c'était une avancée considérable. Je trouvais que c'était, dans la loi d'amnistie, même s'il y avait beaucoup de choses bien, je trouve que c'était rendre hommage, effectivement, à ces mineurs qui s'étaient battus pour la sauvegarde de leur emploi, des gens qui ont aujourd'hui 90 ans, etc., et sur lesquels pèse toujours cette injustice. Eh bien, aujourd'hui, le gouvernement socialiste et des députés socialistes, puisque je rappelle quand même que 80 d'entre eux étaient favorables pour voter cette loi cet après-midi. Donc des députés socialistes et le gouvernement socialiste méprisent aussi ces gens qui ont sué pendant des décennies dans les mines. Et je pense que c'était aussi une façon de leur rendre hommage que de voter ce texte.
Avis à tous les AMG du Gard et de l'Hérault. Le vendredi 17 mai à 20h, le Café Repère de la Petite Camargue reçoit François Ruffin, que l'on ne présente plus sur ce répondeur. Rendez-vous donc à 20h au bar La Renaissance, à côté de la mairie, à Galargues-le-Montueux, le 17 mai. Ciao.
Bonjour, ce soir, au repère de l'abbaye J'y suis de Tonquédec, dans les Côtes d'Armor, près de Lannion, une conférence débat sur une 6e République. Donc, nous organisons une conférence débat pour répondre à ces interrogations, mais aussi pour débattre autour de la Constitution, quels principes, quelles valeurs, quelle Constitution est à écrire par la Constituante. Cette soirée sera animée par André Bellon, président de l'Association pour une Constituante. André Bellon est ingénieur économiste, administrateur de l'INSEE, et il collabore également au monde diplomatique. Et voilà, le tout est à 20h30 ce soir, au temps des cerises, à Tonquédec, près de Lannion, dans le Trégor.
Actualité française.
Dans le Nord, la grève des mines continue, le charbon ne sort plus.
14 octobre 1948.
Et faute de combustible, on peut craindre que la production française soit menacée d'arrêt. De graves bagarres ont opposé grévistes et forces de police devant le puits numéro 5. Il y a eu des blessés.
La grève, elle était juste, hein. On réclamait notre dû.
De plus, il y a eu un mort étouffé par la foule. Un cortège compact et silencieux a accompagné à sa dernière demeure la malheureuse victime.
Les pauvres mineurs, ils sont vraiment démunis, ils ne sont pas armés, hein, et ils ont contre eux l'armée, etc., avec des automitrailleuses. Hein. Non mais, le rapport des forces est totalement disproportionné. Quoi.
Le problème de la grève actuelle commande la tension nationale. Le gouvernement doit y faire face avec lucidité, avec humanité, avec décision.
C'était la guerre, hein. C'était la guerre. La guerre décrétée par le gouvernement contre les mineurs.
Et c'est justement quand on a des rapports de force aussi disproportionnés qu'on se bat finalement contre tous. C'est un combat désespéré, quoi, je dirais.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base où j'y suis, avec Charlotte Perry. La grève des mineurs de 1948.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors voilà, il est 9h du matin et on vient d'arriver à Lens, en plein cœur de l'ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, la ville où se concentrait autrefois toute l'activité liée à la mine. Là, je me trouve sur le parvis de la gare. Tout est calme, il y a peu de passants. En face de nous, de l'autre côté de la rue, il y a l'Hôtel de France. Un hôtel un peu vieillot, tout en briques rouges, avec des pignons à pas de moineaux qui font comme des escaliers qui montent vers le ciel, qui sont très typiques de l'architecture flamande du nord de la France. Si on se retourne de l'autre côté, il y a la gare de Lens. Et derrière la gare, derrière les voies de chemin de fer, on aperçoit toute une chaîne de terris qui se profile à l'horizon. Ces masses noires de résidus de charbon. La plupart de ces terris sont aujourd'hui entièrement recouverts de végétation. On voit même des arbres qui ont poussé par-ci, par-là. Du coup, le paysage est très vert, très verdoyant. Et nous, eh ben, on est venus justement au pied des terris pour rencontrer d'anciens travailleurs des houillères nationales. Norbert Gilmet, 89 ans, Daniel Amigo, 84 ans, ont été licenciés voici plus de 60 ans pour avoir participé aux grandes grèves de 1948. Des grèves très dures, qualifiées d'insurrectionnelles par le gouvernement socialiste de l'époque et qui ont été réprimées dans le sang. Suite à ces grèves, 3000 mineurs avaient été licenciés, emprisonnés, expulsés de leur logement et bannis des houillères nationales. Et voici quelques mois à peine, la cour d'appel de Versailles vient de rétablir 17 de ces anciens mineurs dans leurs droits en reconnaissant le caractère illégal de ces licenciements. Alors voilà, c'est pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui, dans cette région lançoise, pour rencontrer Norbert Gilmet, 89 ans, Daniel Amigo, 84 ans, et évoquer avec eux cette formidable lutte et cette formidable victoire 60 ans après.
Victoire, victoire, exclamation ou victoire, interrogation? Victoire, exclamation. On vient de le dire, Charlotte vient de le dire. 10 mars 2011, la cour d'appel de Versailles reconnaît enfin l'illégalité et l'illégitimité de ces licenciements suite à cette grève de 1948. La grève est un droit constitutionnel. Ils avaient été 3000 à être licenciés pour fait de grève. Donc, ils sont enfin rétablis dans leurs droits et indemnisés. Victoire, victoire des 17 qui avaient des 17 mineurs ou de leurs ayants droit qui, avec 4 avocats courageux, ont obtenu cette reconnaissance. Victoire, exclamation, au bout de 63 ans et des années de procédure. Exclamation, mais il y a quelques jours, fin mai, le 23 mai, l'État, puisque les charbonnages maintenant sont sous la responsabilité de l'État, l'État a fait un pourvoi en cassation pour l'indemnisation et la reconnaissance de ces mineurs. Donc, victoire avec point d'interrogation. Mais à tous les coups, victoire sur l'oubli, victoire sur le mépris, victoire symbolique et hommage à la mémoire de ces mineurs qui se sont battus à l'époque en 1948 comme ils l'avaient fait en 1947, en 1941 durant la guerre et comme ils le feront en 1963. Une grève, celle-là, victorieuse, forte de celle de 1948. Vous avez compris, ces pages d'histoire sociale qu'on va évoquer évidemment avec ceux qui en ont été les protagonistes, les témoins et les acteurs, et qui ont chanté dans les prisons où ils furent enfermés. Certains délégués syndicaux furent enfermés en prison. Ça a été une répression d'une violence inouïe que cette grève de 1948. Le ministre de l'Intérieur, un certain Jules Moc, avait fait venir 60 000 CRS et militaires contre ces 15 000 mineurs en grève. Et donc, lorsqu'ils furent enfermés en prison, ils chantaient une chanson qui disait « Révoltés de dégoût, de misère, par milliers unis dans les grands puits, les mineurs ont clamé leur colère pour la grève, alors ils ont dit oui, leurs droits étaient bien légitimes, inscrits dans la Constitution, les travailleurs des champs, des villes ont dit mineurs, oui, vous avez raison, c'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, avec Charlotte Perry, la grève des mineurs de 1948.
Révolté de dégoût, de misère, par milliers unis dans les grands puits. Les mineurs ont clamé leur colère pour la grève, alors ils ont dit oui. Leur droit était bien légitime, inscrit dans la Constitution. Les travailleurs des champs des villes ont dit mineurs, oui vous avez raison. Salut à vous, mineurs de France, unis sous votre fier drapeau. Bravant la répression sanglante, bravant les prisons, les bourreaux. Dans le Gard, dans la Loire, en Moselle, tout suit, magnifique de gloire. Du Nord jusqu'au Midi, salut à vous, mineurs de France, ce chant jaillit de tous les cœurs. Gloire à vos morts, sublime exemple, salut à vous, vaillants.
Un jour, des troupes mercenaires ont fait une ignoble répression. Assassins, ils ont tué vos frères en jetant des centaines en prison. Oh, vous, parjure couvert de honte, aux mains rougies du sang français, vous traînerez jusqu'à la tombe l'ignominie de vos tristes forfaits.
Salut à vous, mineurs de France, ce chant jaillit de tous les cœurs. Gloire à vos morts, fumez les exemples. Salut à vous, vaillants mineurs.
Vous, monsieur Amigo, vous habitez ici à Méricourt depuis longtemps ?
Depuis 68, je crois. On va pas mal vous le dire parce que moi j'ai une mémoire courte. Moi j'étais mineur, j'étais pas à Méricourt. Je suis venu rester à Méricourt après. Je suis d'un Aliétaire.
D'où ?
Un Aliétaire. Comme maintenant c'est une à Beaumont. Allez-y, rentrez.
Oh, bonjour madame.
Bonjour.
Voilà, Daniel Amigo, l'un de ces mineurs qui a porté plainte et qui fait partie donc de ces victorieux et aussi qui porte cette mémoire de la mine et de cette lutte de 1948. Après la guerre, c'est relever les manches et creuser pour le charbon. C'était l'appel du général de Gaulle, mais aussi du Parti communiste, de Maurice Thorez. Il fallait que la France ait toute son énergie et toute son indépendance énergétique pour se relever. Alors, mineurs, relevez vos manches et creusez le charbon. Et ces mineurs l'ont fait, se sont crevés la paillasse par patriotisme, pour relever le pays. Ils étaient assez héroïques, ils étaient vus d'une façon... C'était un peu les héros... de cette époque. Mais le vent a tourné en 1947, changement de gouvernement, changement de ton, et changement aussi de salaire, changement d'avantages sociaux, jusqu'à ce que les mineurs se mettent en grève, se lancent à l'appel de la CGT dans une grève, en octobre donc 48, et cette grève a été très 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 durement réprimé, on va nous le raconter. Pourquoi ? Parce que c'était le début de la guerre froide, c'était le début de l'affrontement entre les États-Unis et l'URSS, et il y avait cet anticommunisme qui allait se développer, et ce soupçon et cette accusation de communisme, qui était que cette grève, derrière cette grève, il y avait la main de Moscou. Ces grévistes étaient les ennemis de l'intérieur qui préparaient l'arrivée des soviétiques en France. Bref, il fallait s'en défendre, il fallait mobiliser les troupes et toutes les troupes contre ces gens-là. Pour la plupart, si certains, indéniablement, de ces grévistes rêvaient du grand soir et d'une fin du capitalisme, sans doute, mais pour la plupart, évidemment, ils luttaient tout simplement pour leurs droits et pour leur pain, et Daniel Amigo en faisait partie.
Là, vous voyez, on a la lettre, c'est la lettre des avocats.
J'ai la très grande joie de vous annoncer que la Cour d'appel de Versailles nous a donné raison par un arrêt du 10 mars 2011 que vous trouverez 6 juin en copie. Alors, la Cour a donc estimé que le licenciement intervenu pour fait de grève était nul car discriminatoire. Elle a octroyé la somme de 30 000 euros à chaque mineur ou famille à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme pour les frais d'avocat. Voilà.
C'est bien, puis ça dure trop longtemps. On reste à 7.
Il n'y a plus que 7.
Alors, plus les veuves.
Ouais, mais des mineurs, il y en a 7. Chaque côté, il ne va plus en rester. Hein. Alors, c'est bien, puis c'est pas bien, puis c'est tout. Hein. Nous, c'est les ouvriers. Vous savez, c'est la basse classe, c'est tout. Bon, on était mineurs, on a fait grève pour notre pain. Puis après, nous a foutu les flics et puis l'armée tout dans la cité, là, avec les mitraillettes et compagnie. Hein.
Pour les faire retravailler avec mitraillettes.
Ils disaient que nous, on empêchait les gens d'aller travailler. Il n'y avait personne qui voulait travailler. Hein. La grève, elle était juste. Hein. On réclamait notre dû. Et on jouait aux cartes au soir, vous savez. On cherchait pas la bagarre, je vous dis, on jouait aux cartes. Dans la journée, je jouais au boule, dans la cour d'une mine, et nous, au soir, on jouait à carte, on faisait grève, tout le temps. Alors, quand on est au piquet de grève, automatiquement, il n'y a personne qui rentre. Mineur, il ne va pas rentrer. Mais nous, on n'a pas cherché. Qu'est-ce que vous allez faire quand des gens qui ont des mitraillettes?
Alors, vous, à l'époque, en 48, vous aviez quel âge?
21 ans. Alors, moi, j'étais pris, j'étais au piquet de grève, et puis, je rentre chez moi. On me dit, les gendarmes, ils sont venus, il faudrait que tu te présentes devant la gendarmerie. Moi, j'ai rien fait de mal. Je suis parti de la gendarmerie, coiffé.
Prison.
En travail, la liberté de travail, et puis patati, patata. Et ils m'ont embarqué à Béthune. J'ai fait 2 mois de prison à Béthune. J'ai fait appel, j'ai gagné un de plus, 3 mois. Et en plus, 6 000 francs d'amende à l'époque. Le papier est encore là. Hein.
6 000 francs d'amende.
6 000 francs, ça représentait combien par rapport à votre salaire?
48.
Ça faisait une somme, hein. Je faisais au moins 5, 6 salaires de mois. Ouais.
C'était payé à la quinzaine, mettons une dizaine de quinzaines.
Ouais. Alors plus de travail, plus rien, vous lui payez. Heureusement, je dois vous dire une chose. Nous, j'ai eu un journal qui nous a payé la moitié de la somme.
C'était quel journal?
Liberté. Et depuis, pourtant je ne suis pas carté sur aucun parti, mais j'ai pris toujours Liberté chez moi.
Liberté, c'est le journal du Parti communiste?
De cette région, hein. Je dirais que dans le Nord et Pas-de-Calais.
Et eux, ils vous ont aidé à payer vos amendes?
Ils l'ont payé tout de suite.
Oui.
Quand j'ai été libéré, il a fallu que je paye l'amende, hein. Pour rien fait. Ils arrêtaient tout le monde, on était dans les prisons, on était à 10, 12 ans d'une cellule. Il y avait un monde, hein. Ah oui. Tous les cases étaient pleines. Il n'y avait plus de place. Alors, il y avait un lit. En principe, dans la cellule, il y a un ou deux lits. Alors, celui qui avait le lit, c'était le plus vieux. Puis tout le reste, tout couché par terre. On couchait par terre, hein. On était maltraités comme des bêtes, puis c'est tout, hein. Puis ça chantait dans la nuit, là, au dehors du travail. Puis les mineurs, ils avaient des anciennes chansons, c'était des révolutionnaires, là. Le temps des cerises et tous les bazars, toutes ces chansons, toutes les vieilles chansons de révolutionnaires, hein, eux savaient tout. Moi j'étais jeune, je vous dis j'avais 21 ans. Alors j'écoutais, puis c'est tout. Hein. Dans la nuit, ça faisait lugubre. Hein. Et les gens du dehors, ils venaient écouter. Hein. Ils venaient autour de la prison écouter.
Ça, c'est quoi?
L'extrait du registre d'écrou. Comme quoi il a été en prison. Alors, c'est daté le 18-11-48 jusqu'au 18-2-49. Alors, là-dessus, c'est marqué. La cour d'appel de Douai entrave à la liberté du travail et au bon fonctionnement des houillères nationales. Alors, peine de 3 mois de prison et 6 000 francs d'amende.
Et vous avez été nombreux comme ça à être licenciés, vous, où vous travaillez?
Ma mine, il y en a deux. Lui, il a été repris, mais moi, je ne l'ai pas toujours repris. Dans le fond, je me plaisais bien, et je suis encore là, parce qu'ils sont tous partis. Il ne reste plus que des veufs. Moi, j'ai pas travaillé beaucoup, j'ai travaillé 6 ans. J'ai fini ma carrière à l'église. Mais une dame qui avait 40 ans et puis plus, c'est pas ça, vous savez, ceux-là, il y a autant qu'ils sont morts, puis ils n'ont pas eu rien. Ils ont traîné la misère, pas de boulot. Ils avaient l'ordre de ne pas les embaucher, hein. Même les entreprises.
Les usines privées et tout.
Pas vrai, il n'y a pas de boulot, puis c'est tout. Plus de maison, plus tu n'as plus rien. Attention, c'est mon frère qui m'a hébergé, hein.
Couverture sociale.
Plus rien du tout, hein. Ouais. Dis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait greffe. Pour défendre mon pain, c'est tout, ma tartine, comme on dit à l'époque.
Mémoire de la grève de 1948 dans les houillères, on a entendu, c'était pas seulement dans le bassin minier de Lens, c'était aussi dans d'autres lieux de mines en France. Mais ce qui est intéressant, c'est la personnalité probablement de Jules Mocq, le ministre de l'Intérieur de l'époque. C'était quelqu'un qui avait fait partie du Front Populaire, qui avait dénoncé les accords Hitler-Staline, qui n'avait pas voté favorablement lorsqu'il était député envers Pétain, un homme qui avait été dans la résistance. Donc c'était plutôt un homme de gauche, droit, bien, etc. Mais lorsqu'il est ministre de l'Intérieur en 1948, il est gagné par cette idéologie qui s'installe très fortement dans le pays et dans la classe politique, qui est la lutte contre le communisme. Et tout ce qui peut de près ou de loin être soupçonné d'un lien avec l'URSS, ce qui explique probablement la grand-peur de la classe dominante en France et la violence invraisemblable de cette répression qui consiste en infraction totale vis-à-vis de la loi à licencier, à faire licencier près de 3000 mineurs.
Et vous êtes rentré à la mine à quel âge ?
À 14 ans. Mon père était déporté pendant la guerre. Mmh. Mon père était déporté à Huy, en Belgique. Pour faire greffe aussi. En 1941, j'étais à la grève des mineurs avec les Allemands. Hein. Ben, lui, il était déporté à Huy, en Belgique. Et il est revenu 3 ans après. Alors, comme j'étais le plus vieux de la maison, j'ai parti à la mine. Pour élever la famille, ils sont trois frères. La mine, c'est que vous commencez au triage. Vous savez, le charbon, il est sur une trémie, puis vous enlevez les cailloux. Et après, on vous fait descendre au fond, comme Galibot. Pour vous rouler les barreaux, vous apporter le bois, vous donner un coup de main aux ouvriers. Et après, normalement, à l'âge que j'avais, je faisais un stage pour être ouvrier. Alors, et puis j'étais à la greffe et j'étais fini, là. De 44 à 48, on a donné du charbon, on a travaillé jour et nuit, même le dimanche et compagnie, pour soi-disant remonter la France. Mais eux, ils nous ont pas remonté, ils nous ont cassé par terre. De 44 à 48, ça, c'était la bataille du charbon. Oh là là, ça y allait, la manœuvre. Les ouvriers étaient cinglés. On était fous. On travaillait le samedi, on travaillait le dimanche, on travaillait tous les jours. Alors, le dimanche, un jeune homme, il voulait pas travailler le dimanche, hein, rendez compte. Ah, c'était terrible, hein. Vous savez, dans le temps, on voyait que ça, on voyait rien d'autre, mais tout le monde allait travailler à la mine. Hein. Et notre frère était mineur comme moi. Il a été à la mort. Tout a tombé sur lui.
La mine s'est effondrée ?
La voûte minière s'est effondrée.
Et sa copain est mort. Lui, il n'est pas mort. Ouais. Parce que la mine, c'est ça. Hein. Le charbon, il est enlevé. Il y a un toit où vous mettez des bois. Et les bois, ils pètent, les bois, ils pètent, tic, tic, tic. On a remis un autre en dessous, puis tout, hein. Puis c'est dangereux, mais vous y pensez pas. On dit, ah, ça a bougé, là. Hop, on a remis un bois, puis c'est tout. Faut l'eau être cinglée pour y aller. Mais c'est comme ça. On y pensait pas.
Ils rêvent de la mine. Toutes les nuits, toute la nuit, ils en rêvent, hein.
Je vois les bois qui cassent, vous entendez le bois qui claque, un bois comme ça qui pète. Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous en prenez un plus court, puis vous mettez à côté. faites pas attention. Mais il est dans le lit.
Je pense. Attrape mon bras.
Et pour empêcher le toit de tomber. C'est à toi qu'il y a au-dessus, hein. C'est de la terre, c'est à toi. Hein. Alors, ouais. Et quand, à coup, j'avais passé le conseil de révision, et puis j'ai fait la fête 3 jours. J'ai pas travaillé. Le jour que j'ai repris, Poirot me dit, si tu veux, tu vas rattraper tes jours. Alors, j'ai travaillé de nuit, et sur une quinzaine, j'ai rattrapé mes 3 jours. Mais je dois vous dire que là, j'ai eu les poètes-poètes. Hein. J'ai tout vide dans la mine. Vous voyez le fond, là-bas, si un jour que ça se met à péter d'un seul coup, vous êtes écrasé. C'est là, il va arriver, ça. Alors, à coup, il me dit, alors ça a été. Et en tout cas, il dit, même si je loupe des jours, plus jamais j'irai de nuit. Oh là là, j'avoue les chocottes. Et puis j'étais des piles, des pilas, qu'on appelle ça. Mmh. Hein. Alors, ils déclenchaient, puis il fallait que j'allais chercher les bois pour pas les perdre. Alors, pété. Si j'ai pas fait dans mes culottes, c'était tout juste, ça. Hein. Faut voir le travail. Hein. Il faut le voir pour le croire. Mais ben, il y allait quand même. Il fallait aller chercher le bois, là. J'en ai fait. Hein. Parce que si on perdait un bout de bois, on avait une amende. Hein. Il faut la retrouver. S'il y avait 4 bois, il faut la retrouver. Et le porion, il passait, ou bien le surveillant. Ah, il manque un.
Ah. Et ça, ça se faisait de nuit.
Toujours de nuit.
Ah oui, d'accord.
Mais pourquoi il faisait ça?
Pour rattraper le bois, puis avancer. Ah, vous savez, j'étais pas rigolo. Hein. D'abord, il fallait être saoul pour faire ce qu'il faisait. Et le gars, il était saoul, qui travaillait avec moi. Ah ouais, ouais. Quand il faut y aller, il faut y aller. C'est comme à la guerre, hein. La guerre, quand on est dans la guerre, il faut y aller. Ben, il faut y aller. Hein. Ah ouais.
T'es tôt là comme une montagne bien à plage, tes faux aux parties et nos paysages, qui nous périorent aux pincées que je t'éris, par un beau jour ils seront évanouis. Mes pauvres gens, il faudra bien s'y faire. Y a disparu ma vieux Terry de Rimbert. Ben, mes pauvres gens, il faudra bien s'y faire. Y a disparu ma vieux Terry de Rimbert. Quand j'ai au gosse, je grimpe au chutin d'eau. S'il y a vos pas de garde, vite un chevaux filo. Parmi chez Ral, chez Aiguillage, chez Beau. Et tout le fourbi qui traîne au chuche carreau. Et un grimpeau tout en haut dans le poussière. Y a disparu ma vieux Terry de Rimbert. Et un grimpeau tout en haut dans la poussière. Y a disparu ma vieux Terry de Rimbert. T'es tôt un témoin de l'ouvrage et de nos pères qui ont ouvré tout le vie et de sous le terre. Pour te construire y a fallu plus de 120 ans. Et ravi ça ne parle plus de ti un rien de temps. T'es parti rogné par chez Bulldozer. Je te dis adieu ma vieux Terry de Rimbert. Parti rogné par chez Bulldozer, je te dis adieu, ma vieux Terry de Rimbert.
Bon, je m'appelle Thiénot Grimbach et je suis avocat. Pour refaire rapidement cette historique, je vous dirais que la Halde avait été saisie par M. Georges Carbonnier, qui avait regroupé un certain nombre de familles, 18 familles de mineurs, des survivants. Et des ayants droit, c'est-à-dire leurs épouses ou leurs enfants, pour faire reconnaître le fait qu'ils avaient été licenciés pour fait de grève et que c'était une discrimination, il a saisi la Halde. Et il a voulu que ceux qui avaient été traités comme des chiens, alors qu'ils avaient tant donné, tant pendant la résistance qu'après, qu'ils puissent être reconnus comme ayant été ce qu'ils avaient été, c'est-à-dire des hommes debout. Des hommes de lutte, des hommes de qualité, des familles qui ont été décimées, brisées, abîmées par cette affaire.
Voilà, au départ, donc, il y a Georges Carbonnier qui se lance dans cette démarche pour obtenir justice. Comme le dit Thiénot Grimbach, avocat fameux, mais il n'était pas seul dans cette affaire. Il n'est pas seul dans cette affaire, parce que vous avez compris que ça n'est pas terminée. Il y a quatre autres avocats qui sont financés par l'aide juridictionnelle. Donc c'est vraiment de, on peut dire vraiment un engagement militant pour, vous avez compris, une cause superbe. Et le combat n'est pas terminé. Il y a eu une victoire d'étape très importante en mars dernier, mais le combat continue.
Ce qui s'est passé dans cette affaire de la grève de 48 est absolument incroyable. Il faut se rappeler que en 41, c'est la première grande grève patriotique contre l'occupant nazi. Elle se déroule dans les départements du Nord-Pas-de-Calais, soumis à l'administration militaire allemande. C'est pas Vichy, c'est pas l'occupation, c'est l'administration directe de l'armée allemande sous commandement militaire de Bruxelles qui est présent et qui fait régner la terreur nazie. Donc en 1941, la grève se déclenche pour le pain et la liberté sur tous les carreaux de mine. Et on fait intervenir l'armée, 3000 licenciés, 600 envoyés en camp de concentration, 50 survivants. Pour trouver ces 3000 personnes, on envoie des porions, des ingénieurs de production, des contremaîtres, avec des listes qui avaient été communiquées par les renseignements généraux à l'armée allemande. Et on fait l'appel de tous les militants de la CFTC, l'ancienne CFTC, le syndicat chrétien, et de la CGT, qui sont là sur place, et les membres du Parti communiste, tous les militants, les gens qui sont engagés dans les luttes. Et comme ça, on en fait remonter 3000, qu'on prend un par un dans le fond des mines, avec cette répression terrifiante. À la libération, le général de Gaulle et Maurice Thorez disent « Retroussez vos manches, il faut rattraper la production ». Et les mineurs sont là, présents. En 2 ans, ils rattrapent la production de 1939. En 2 ans. Malgré toutes les destructions qu'il y a eu, ils font un effort considérable. Et ils le font parce qu'on leur a aussi restauré une part de dignité par le statut des mineurs, qui crée des relations du travail nouvelles avec des délégués mineurs, avec la présence du syndicat, avec la dignité retrouvée dans l'organisation de la production. Et le gouvernement d'alors, malheureusement dirigé aussi par des socialistes, décide de remettre en cause le statut des mineurs, qui était considéré comme la compensation des efforts et la reconnaissance de tout le travail qui avait été fait par ces mineurs pendant toutes ces années de lutte contre l'occupant, mais aussi de lutte pour la production. Donc la grève se redéclenche exactement comme en 1941, carreau des mines par carreau des mines. Et du coup, on leur envoie à l'armée. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'est né le mot d'ordre CRSSS. C'est les mineurs qui, eux, se rappelaient. Évidemment, ils n'ont pas inventé CRSSS par rapport au CRS. Ils l'ont inventé par rapport à leur précédente grève, parce qu'on a fait exactement la même chose. Ils sont descendus dans les carreaux des mines, avec les listes également, de nouveau les renseignements généraux, ont redonné les noms des militants, de ceux qui avaient été dans les FTP, de ceci, etc. Et de nouveau 3000 licenciés, et de nouveau la répression, et de nouveau des gens envoyés en prison pendant, etc., etc. Donc, voilà, c'est ça, cette histoire. Et Georges, lui, ce qu'il voulait, c'était que soit reconnu ça, qu'il s'était battu pour quelque chose et qu'on n'avait pas le droit de leur faire ce qu'on leur avait fait.
Actualité française, 28 octobre 1948.
Voici 3 semaines déjà que la production française de charbon se trouve presque complètement annihilée par la grève des mineurs. Et la décision prise par les grévistes de ne plus assurer les services de sécurité aggravait encore les effets de ce mouvement. Le gouvernement se voyait alors contraint de prendre des mesures d'ordre afin de faire assurer par des spécialistes requis l'entretien des mines, vital pour l'avenir de la production française. Malheureusement, de nombreux heurts se produisaient dans diverses régions entre grévistes et forces de police. À Béthune, une manifestation organisée devant la sous-préfecture menaçait de prendre un tour tragique.
J'arrive.
D'accord. Bonjour, monsieur.
Vous êtes jeune, vous.
Oui.
Vous entrez dans la vie.
89 ans, il a monsieur Norbert Gilmet, et il est un des protagonistes de cette histoire qui vient d'être évoquée par Tienno Grimbach, l'un des avocats, et il nous raconte vraiment de l'intérieur ce qu'il a vécu et ce qu'ont vécu ces milliers de mineurs en 1948.
Là, on se trouve à la mairie de Grenay, c'est ça ?
Oui, Grenay. Je ne peux pas recevoir chez moi. Ma femme est restée totalement traumatisée avec la répression que nous avons subie à la grève de 48. Et on ne peut pas parler de ces événements sans qu'elle soit malade pour quelques jours. Puis elle se met en colère. Nous étions trois camarades de la CGT qui avaient été licenciés ensemble de Mazingerbe, mais c'était les trois secrétaires de la section communiste de Mazingerbe. Moi, j'étais employé administratif. Donc, j'ai redemandé de retravailler en perception. On a embauché, mais on ne m'a jamais répondu. On a été expulsé du logement et ma femme était enceinte puisque ma fille est née le 14 mars 1949. Alors, femme enceinte ou pas, et sans relogement, sans rien, hein, du jour au lendemain.
Vous êtes allé où alors ?
Je suis allé chez ma belle-mère, dans un baraquement. Nous, on a eu des dettes. Moi, j'ai eu des dettes qui sont échelonnées, je ne sais pas, une dizaine d'années. Et je n'ai jamais terminé parce qu'il y a un commerçant qui m'a dit « Bon, on ne compte plus, je ne veux plus te voir. » Je ne sais plus ce que je lui devais à l'époque.
Vous aviez des dettes auprès des commerçants ?
Bien sûr. Comment voulez-vous vivre sans travail, sans salaire ? J'ai été embauché deux fois comme terrassier. Et une demi-heure après, on me disait « Les mines ne veulent pas qu'on t'embauche. » Je vais commencer le travail, une demi-heure après, hop. Ah, aussitôt qu'ils étaient prévenus par un garde ou par quelqu'un, par un ouvrier, force ouvrière, parfois. Ah oui. Alors, en 52, donc, c'est là que je suis entré à la tribune des mineurs. Je n'avais plus de droit dans mon lit. Et j'avais encore des dettes.
La grève, alors, elle a débuté quel jour, vous vous souvenez ?
Le 4 octobre 1948. Sur 259 204 mineurs, 94% ont participé au vote. Et c'est à 89-70% qui se sont prononcés pour la grève.
Pratiquement 90% des mineurs étaient pour la grève.
Oui, oui. La grève est partie sur les revendications de salaire. Mais surtout, une des principales raisons, c'était les circulaires et décrets de Lacoste. Lacoste était ministre du Travail. On avait enlevé la gestion des maladies professionnelles et des accidents du travail aux sociétés de secours minières pour le remettre au patron. C'est le patron qui décidait si l'ouvrier était silicosé et s'il fallait le remonter à la surface. Voilà ce qu'il a fait Lacoste. Et ça, c'est resté. Et nous, c'est le 26 octobre, si mes souvenirs sont bons, que l'armée est arrivée ici. On a occupé tout le bassin minier. Alors, on n'avait plus le droit de réunion, rien du tout. Hein. Moi, j'allais, mais très peu de temps hein, aux manifestations. Parfois, parce que moi, j'avais été chargé pour m'occuper du recensement, du classement des vêtements, chaussures, sous-vêtements qui venaient de partout pour aider les mineurs. Moi, c'était ma tâche pendant la grève. Et ensuite aussi, l'envoi de nombreux enfants qui ont été accueillis dans la région parisienne pendant 2-3 mois. On ne peut pas l'oublier, ils ont pris nos enfants pour nous aider dans la région parisienne. Hein. Tous les pays qui ont envoyé des vivres, des vêtements, qui ont envoyé de l'argent, de la Pologne, de l'Angleterre, de l'Amérique, d'Afrique, d'Italie, Pietro Nenni, hein, le socialiste Pietro Nenni qui a condamné le gouvernement français aussi. Il y a eu tout ça, il y a eu la reine d'Angleterre qui a pris un enfant, la reine de Belgique, je m'excuse, je dis d'Angleterre, c'est de Belgique qui a pris un enfant. Les prêtres qui soutenaient les mineurs, les artistes, les footballeurs. Au Racing Club de Lens, il y a eu un match au profit des grévistes partout en France. Les boxeurs, Humez, partout. On a eu un mouvement de solidarité, je crois, qui n'a jamais été égalé. Mais la presse, elle faisait le silence total. Il y avait que la presse communiste, mais toute l'autre presse, elle faisait le silence total là-dessus. Elle soutenait le gouvernement, elle décrédibilisait les grévistes, oui. On a parlé de l'argent de l'étranger. Hein, les mineurs étaient soutenus par l'argent de l'étranger. Ils faisaient une grève insurrectionnelle payée par l'étranger. Ah, oui, payée par Moscou pour créer une démocratie populaire comme dans l'Est. Hein. La grève insurrectionnelle, alors on était vraiment devenus des hors-la-loi. Hein.
Alors, aujourd'hui, jeudi 16 mai 2013, où en sommes-nous? Où en est la lutte des mineurs survivants à l'heure où la loi sur l'amnistie sociale des syndicalistes est en débat et est plutôt mal partie? Charlotte Perry fait le point.
Allô?
Monsieur Gilmet?
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Gilmet, on s'était rencontré en 2011, lorsque la cour d'appel de Versailles avait reconnu le caractère discriminatoire et donc illégal du licenciement de plus de 3000 mineurs, dont vous-même, suite aux grandes grèves de 1948. Donc 60 ans plus tard, c'était une magnifique victoire pour vous, puisque les charbonnages de France, donc l'État, a été condamné à indemniser 17 anciens mineurs qui se sont battus devant la justice à hauteur de 30 000 euros. Et puis ensuite, l'État, donc la personne de Christine Lagarde, qui était ministre de l'économie à l'époque, a décidé de se pourvoir en cassation. Et la Cour de cassation a annulé donc la condamnation. Ce qui fait que, en théorie, donc, vous auriez dû rendre ces indemnités. Alors aujourd'hui, vous en êtes où de ce combat-là?
Disons que c'était tellement abominable, c'est le cas de le dire, hein, cette décision de la Cour de cassation, que les ministres ont été gênés et que nous avons obtenu qu'un ministre passe outre à la décision de la Cour de cassation dans une lettre. C'est M. Moscovici qui l'a faite à un sénateur, hein, aux deux sénateurs communistes d'ailleurs, aux deux, et qui a précisé qu'on ne reprendrait pas l'argent. On ne l'a pas réclamé. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a toujours ce texte que je réclamerai toujours, quelle que soit votre décision, je l'avais dit à Versailles, l'application de la loi d'amnistie comme aux autres, avec reconstitution de carrière. Parce que les faits qui nous sont reprochés sont des faits avant le 22 mars 1981, donc ils dépendent de la loi d'amnistie du 4 août 1981.
Oui. Celle que François Mitterrand avait fait passer.
Voilà, qu'il avait fait passer, on est d'accord.
Alors là, au début de cette année, le Sénat a voté une proposition de loi dite d'amnistie sociale qui concerne donc les délits commis lors de mouvements sociaux et d'activités syndicales. Et l'article 1er A de cette proposition de loi vous concerne vous directement puisqu'il dit, alors je cite, « Les mineurs condamnés à l'occasion des grèves de 1948 sont amnestiés ». Alors cette proposition de loi doit être débattue devant l'Assemblée nationale le 16 mai. Pour vous, si cette loi venait à être effectivement votée, qu'est-ce que ça ferait? Vous seriez amnistié, donc vous obtiendrez une réparation complète?
Pour moi, s'il passe le nouveau texte, bon, et qu'on décide de voir notre situation, ça suivrait la loi d'amnistie de 81. Ça donnerait le droit au chauffage, logement, pour la période perdue de 48 jusque maintenant, hein. Ça donnerait une somme. Pour l'ensemble, on arrive à peu près à 250 000, je crois.
200 000 euros.
En plus, avec cette situation tout à fait particulière, nous ne sommes pas les coupables. En 48, nous sommes les victimes du terrorisme d'État que j'ai dénoncé à Versailles devant des juges en faisant appel au ministre de la Justice de me poursuivre si je diffamais l'État. Et j'ai jamais été poursuivi. Alors, un petit mot sur la loi d'amnistie là, pour les autres. Le texte qui était passé au Sénat, en entier alors, hein, pas simplement le petit paragraphe qui nous concerne. Je tiens à vous dire une chose. Lorsqu'il y a eu le débat au Sénat, on a dit que ce serait une prime à la casse, une prime à la violence, etc. Et moi j'ai répondu à Madame Taubira, si on ne règle pas notre problème, eh bien alors... Puisque nous sommes victimes de violences extrêmes, de terrorisme d'État, si on ne règle pas tout ça, eh bien nous sera force de dire c'est une prime à la violence extrême, à la casse des vies humaines, pas seulement la casse du matériel. Hein. C'est l'encouragement aux gouvernants à gouverner par le terrorisme d'État quand ils en ont envie. Pour moi, je dis, c'est pas l'honneur de la France de se trouver dans cette situation. si ça continue, on sera obligé de vous accuser aussi au gouvernement de complicité de la torture qui a eu lieu en 48.
Alors, vous continuez le combat?
Ah, bien sûr, hein, tant que je suis vivant.
Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup.
Et merci, moi, de tout ce que vous faites.
Au revoir.
Au revoir, madame.
Au revoir, monsieur.
Merci à tous et à toutes. C'était La Grève des mineurs de 48, un reportage qui vous avait été présenté dans une première version en juin 2011, un reportage de Charlotte Perry. La suite demain. Merci à Daniel Amigo, Tino Grandbach, Norbert Guilmez et tous les autres. Sur ce sujet, vous pouvez également voir le documentaire L'honneur des gueules noires de Jean-Luc Reynaud. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique Programme, émission Là-bas si j'y suis, ainsi que sur le site la-bas.org où vous pouvez réécouter cette émission. Allez voir aussi notre page Facebook, la page Facebook de Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Basile Bocquer et Pauline Laverdure. L'émission a été réalisée par Lucie Hakoun et Chloé Sanchez et préparée avec Grégory Salomonovitch. Marion Dupas attend vos messages sur le répondeur de La Passe J'y suis au 01 56 40 37 37.
Attention, mardi dernier, le jackpot Euromillions n'a pas été gagné. Ce vendredi, il atteindra près de 62 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement.
Euromillions, et si votre vie devenait infiniment plus riche? Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
France Inter présente The Master de Paul Thomas Anderson avec Joachim Phoenix et Philippe Seymour Hoffman en DVD et Blu-ray. Un portrait d'être à la dérive, en quête de sens, dans l'Amérique d'après-guerre. The Master, prix du meilleur réalisateur et double prix d'interprétation à la Mostra de Venise. Un DVD et Blu-ray France Inter.
Tu vis avec quelqu'un?
Tu t'es pas demandé pourquoi je te fais venir officialiser le divorce?
Après une séparation, France Inter présente Le Passé, le nouveau film de Asghar Farhadi, en compétition officielle au Festival de Cannes.
Ma mère t'a rien dit?
Avec Bérénice Bejo, Tahar Rahim et Ali Mossafa.
Mais c'est quoi ce malentendu de merde qui pourrit nos vies depuis des mois?
Le Passé, un mélodrame aux allures de thriller. Au cinéma le 17 mai. Retrouvez Le Passé de Asghar Farhadi dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
On se retrouve demain à 15h pour La Basse si j'y suis. Il est 16h sur France Inter. Les informations, Dominique Delaroy.
François Hollande face à la presse, ça commence en ce moment. Plusieurs centaines de journalistes ont été conviés à l'Élysée pour cette deuxième grande conférence de presse du chef de l'État, un an après sa prise de fonction. Comme il l'avait fait le 13 novembre dernier, lors de la première, François Hollande va prononcer un préambule d'une vingtaine de minutes, suivi du jeu des questions-réponses, le tout ne devant pas excéder 2 heures. Une conférence de presse que vous pouvez suivre en direct sur franceinter.fr. L'épouvante dans une école primaire privée du 7e arrondissement de Paris. Un homme s'est suicidé avec un fusil à canoncier dans le hall d'entrée de l'établissement sous les yeux de plusieurs enfants. Il n'a pas pu dépasser l'entrée. Des gardiennes se sont opposées à son intrusion. C'est ce qu'a confirmé par la suite le ministre de l'Éducation Vincent Peillon qui a écourté un déplacement à Bruxelles pour se rendre sur place.
Les services de l'État, mais aussi les services autour ont été absolument remarquables. La cellule psychologique est là, elle restera plusieurs jours. Je viens de rencontrer l'équipe éducative, nous sommes à leur disposition, le président des parents d'élèves. Je demande aussi qu'on fasse attention à respecter dans ces moments-là un certain nombre de règles. Il n'est pas bon, je vous le dis comme ministre de l'Éducation nationale, que les enfants deviennent dans ces moments tragiques des objets médiatique, ce monsieur, l'enquête le dira, mais avait l'air d'être extérieur à l'école, d'être déséquilibré. Les personnels de l'école n'ont aucun reproche à se faire. Il était tout à fait normal, tous les parents le savent, qu'on accompagne ses enfants dans une école maternelle. Les deux femmes qui étaient à l'entrée ont cherché à, bien entendu, l'empêcher d'entrer. Il était violent physiquement. Et puis nous pouvons quand même nous réjouir aussi qu'aucun enfant, hein, ils seront traumatisés, nous allons les accompagner, nous allons les aider, mais qu'aucun enfant n'ait été aujourd'hui victime.
Vincent Payon, le ministre de l'Éducation, avec Antoine Gignot. La police indique que cet homme n'avait donc aucun lien avec l'école. Le parquet de Paris a fait appel du jugement prononcé hier à l'encontre de 11 des 22 prévenus au procès du clan Hamidovitch, ce clan qui forçait des jeunes filles, principalement mineures, à voler dans le métro parisien. Les peines vont d'un an à 7 ans de prison, 7 ans pour le chef du clan, alors que le parquet avait requis 15 ans. Derrière les jolies carottes, plus de 2 tonnes de cannabis, c'est ce qu'ont découvert hier les douaniers de Tours dans le chargement d'un camion de légumes en provenance d'Espagne et qui circulait sur l'autoroute A10. La marchandise est estimée à 10 millions d'euros.
Viva la femme!
Les femmes.
Viva.
Toute une histoire.
La femme. Demain, je recevrai Delphine Horvilleur, une des rares femmes rabbins en France et auteure d'un livre en tenue d'Ève qui tente de réconcilier la religion et la liberté des femmes. Et avec Florence Autret, nous parlerons d'une femme très controversée, une des plus puissantes du monde, l'Allemande Angela Merkel. À demain.
Une émission de Stéphanie Duncan, ce vendredi à partir de 9h. France Inter.
La voix est libre.
Il est 16h04, tout de suite le carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon. Bonjour.
Merci Dominique et bonjour, on vous retrouve à 17h. Bon ben voilà, un petit générique ce serait peut-être pas mal, non ? Enfin bon, on va le trouver. Hein. C'était charmant, mais... vous voulez que je le chante peut-être ? Ça va partir. Ouais, eh ben oui. Ou on va s'en passer peut-être, je ne sais pas. Allez, on commence l'émission. Il n'y a pas de générique, c'est moi qui le fais. Voilà, c'est fait. Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons entendre aujourd'hui d'abord une très belle violoniste, Julia Fischer, qui est née il y a une trentaine d'années à Munich, et elle va venir en deuxième partie d'émission. Et puis, nous allons commencer aussi avec un autre artiste qui a eu une vie moins heureuse, on va dire, Yuri Egorov. Yuri Egorov... qui était un maître absolument merveilleux, qui était un premier prix de tout, avec une tête d'ange. Il est décédé en 1988 du sida, un des premiers artistes de musique classique d'ailleurs, et on ressort des disques de lui, et c'est très très heureux. Voici par exemple tiré des 6 moments musicaux de Franz Schubert, numéro de catalogue Deutsch 780, un Allegro vivace. C'est en fa mineur, c'est furioso, c'est plein d'une tension dramatique. Allegro vivace, fa mineur, j'insiste là-dessus parce qu'on va retrouver une pièce en fa mineur. Donc tiré des 6 moments musicaux Deutsch 780 de Franz Schubert, interprété par le très regretté Yuri Egorov. Mais voici la même tonalité, mais écoutez la différence dans un autre de ces moments musicaux. Et là, fa mineur explique le cœur de Schubert de manière différente et nous le montre peut-être plongé dans une insondable mélancolie, alors que tout à l'heure l'angoisse et peut-être la colère prévalaient. Thank you. Le doux Schubert, de nouveau Allegro Moderato, donc un de ces six moments musicaux, très différents chacun, et même dans une tonalité semblable, on a pu admirer de nouveau le talent de Yuri Egorov. Où que vous soyez dimanche après Le Masque et la Plume, vous pourrez entendre vraiment de très très belles pages, une musique exceptionnelle, Dvorak dans toute sa splendeur, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, et puis il y aura aussi l'Apprenti Sorcier, Scherzo Symphonique de Paul Dukas, musique tellement célèbre, elle est rendue à un niveau de célébrité extraordinaire en raison de son utilisation.